13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé, et il s'occupe de votre santé depuis des années. C'est le docteur Alain Delabeau. Comment ça va, docteur Delabeau?
Oh, ça allait pas mal quand je suis arrivé, mais ça va moins bien tout.
Qu'est-ce qui vous arrive, docteur Delabeau?
Hein, rien, j'ai envie de t'emmerder, c'est tout.
Oh non. Paix,
sérénité, mon garçon, paix, sérénité.
Soyez gentil avec moi, docteur.
Mais ça fait une demi-heure que j'écoute tes prestations haut de gamme sur les ventes de produits variés et variables, mais oui. Pas variés, bien sûr.
On cherche un bonnet ce matin, je vous le rappelle, docteur Delabeau.
Oui, mon bonnet, il est dans le 109, ça va, on le sait, on l'a déjà dit 15 fois.
Un bonnet Uniqlo.
C'est mon deuxième bonnet Uniqlo que je perds, et celui-là m'a été offert par ma femme, ça m'en kikine. Oui, t'as pas mis ton bonnet, chérie? Non, je l'ai oublié.
C'est-à-dire que votre femme vérifie le matin comment vous vous habillez pour partir?
Mon épouse chérie est une mère, une sœur, une amante, elle est tout pour moi. Elle est aussi une très bonne cuisinière, d'ailleurs.
En plus du reste, oui. Bien, ça va lui faire plaisir.
Voilà.
Docteur Delabeau, tiens, j'ai vu les programmes des éditions Hugo.
Oui.
Qui m'ont envoyé très gentiment, et vous avez un livre qui paraît chez eux, prochainement.
Ah, tu l'as reçu, le truc, Hugo?
Oui,
là, sur Internet, tu le montreras.
Non, je ne vous le montrerai pas, parce qu'il est marqué sous embargo. Donc, on m'a dit surtout ne pas montrer au vieux grincheux qui vient avec vous le vendredi.
Tu la veux, celle-là?
Mais.
Je suis en train de lui montrer ma main, là.
Il y a
celle qui va le frapper.
La nouvelle chrononutrition illustrée.
Oui.
C'est ça.
T'as tout compris.
Ah oui.
Il paraît le 15 mars.
Ah oui, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens,
le jour du salon, c'est un hasard, bien sûr.
Salon
du
livre.
Ce qui m'a beaucoup fait rire, pardon, Johan, de te mettre un peu en boîte, mais il m'a demandé très gentiment hier si j'aurais la gentillesse de venir au salon. C'est comme si on disait, il y a un film avec Pretty Woman, est-ce que tu viens? Oh, j'arrive, j'aime bien.
Bon.
Non, je serai donc au Salon du Livre à Paris les 16, 17, 18, je crois qu'il y a 4 jours, je crois.
En mars.
En mars.
Voilà.
Ça doit être 15, 16, 17, 18 mars. Et j'y serai les 4 jours, bien sûr, je camperai et je pense y faire des conférences in situ, c'est-à-dire si leur stand est suffisamment grand, je ferai des conférences dedans.
Bon, dans un instant, le docteur Delabeau parlera du morphotype Kéops, puisqu'il va continuer à dérouler pour vous les morphotypes. Mais nous démarrons avec votre semaine santé, docteur Delabeau. Et lundi, des glaçons pour soulager le mal de dos.
Oui, ça m'a un peu marré. Il est vrai que ces glaçons, ça soulage beaucoup de choses. Ça soulage les maux de tête, ça soulage les hématomes. En fait, en refroidissant notablement et rapidement une zone douloureuse, quelle que soit l'origine de la douleur, le froid va anesthésier les terminaisons nerveuses. Hein, on nous fait de la science un peu ce matin. Et le message de douleur ne passera plus. Bon, d'accord. Mais vous avez bien compris que c'est un petit peu comme de marcher avec une canne quand on a mal au genou. Ça soulage, mais ça ne guérit pas du tout. Il faut donc de toute façon recourir aux bons soins d'un professionnel de santé, de préférence un médecin.
Et est-ce qu'on obtient le même résultat si on chauffe?
Ah non.
Parce que souvent, quand on chauffe aussi, ça, vous voyez,
quand
vous mettez une pommade un peu chauffante.
Ah, les pommades chauffantes, c'est pour les douleurs articulaires, c'est autre chose.
Ah,
les pommades chauffantes,
ça marche
très
pas.
Précis.
Ouais.
Ça marche, ça peut marcher sur une douleur du dos. Si, parce que des douleurs de dos, c'est très variable.
Oui,
en fait, mal au dos, tu peux très bien avoir fait bouger une vertèbre. Auquel cas, ça fait un mal de chien parce que ça bouge plus. Moi, depuis que j'ai eu mon accident, de temps en temps, une vertèbre qui se balade dans le dos, ça fait très mal. Mais, je mets jamais de glaçons dessus, je vais voir l'ostéopathe. Et puis moi, ma vertèbre, c'est tout. Mais des douleurs de dos, ça peut être lié à un rein qui vous fait mal, et dans ce cas-là, on a mal à une région précise du dos, on a le rein, l'organe qui fait mal, ça fait très mal. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous avez la vésicule qui fait mal, ça donne aussi mal au dos, ça peut. Vous pouvez avoir mal au dos parce que vous avez un ulcère d'estomac sur la paroi fondique, c'est-à-dire près de la colonne vertébrale, et vous aurez mal au dos. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, allez pas vous coller de la glace. Si ça marche pas au bout de 5 minutes, bon, vous avez pas la peine, allez donc voir en vitesse.
C'est autre chose.
Voilà, c'est qu'il y a autre chose.
Mardi, docteur Delabeau, le top 3 des aliments anti-inflammatoires.
Oui, alors on cite pêle-mêle dans l'article, ça m'a fait un peu marrer parce que il y a les cerises, l'ananas, le chocolat, l'huile de colza, les maquereaux, les herbes aromatiques, enfin bref, du grand n'importe quoi. Parce que si vous donnez des cerises et si vous donnez à des cerises et à des maquereaux le poisson, hein, les mêmes vertus anti-inflammatoires. Bon, ça a plutôt le don de me faire rigoler, parce que c'est pourquoi pas des groseilles à maquereau pendant qu'on y est. Pourquoi pas, comme ça on a le fruit, on a le maquereau avec. Hein.
C'est délicieux.
Voilà. Alors, faut quand même rester sérieux, ne pas croire n'importe quoi, ce qui pourrait vous pousser à négliger de demander conseil à un professionnel de santé, au risque de passer à côté d'un signe d'alarme. Ce qui pourrait vous pousser à négliger des meneurs risque de passer à côté d'un signe d'âge, je suis en train de me relire, d'une lésion cutanée ou organique qui peuvent être très sérieuses. Mmh. Conclusion, ne faites pas n'importe quoi, allez plutôt consulter un professionnel de la santé. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez beaucoup de trucs et astuces sur le net que vous retrouvez à droite, en gauche, à gauche, en haut et au milieu, et on vous conseille de plus en plus de la médecine qu'on faisait il y a 2 siècles. Mais attendez, on a quand même évolué, il faut un petit peu faire confiance aux médecins maintenant.
Bon, je sais bien. Non, mais est-ce que c'est justement parce que les gens ont été gavés de médicaments qu'il n'y a pas un retour
C'est eux qui se gavent de médicaments, Philippe. C'est pas le médecin qui les gave. Alors, je vais te raconter un petit truc. Je suis gériatre de profession. Je me suis aperçu que, si tu veux, au fur et à mesure que mes patients venaient me voir au fil des années, ils étaient demandeurs de plus en plus de médicaments. À tel point, et on ne pouvait pas en arrêter un. Tu pouvais ajouter un médicament sur l'ordonnance, mais si t'en tirais un, il poussait des cris de pan, et il revenait te voir le lendemain en disant « ça va très mal parce que j'ai pas tel médicament ». Mmh. La seule solution, quand les gens arrivaient à 2 pages, c'était de les envoyer à l'hôpital pour faire un bilan. Et je mettais dans la lettre, Madame Intel, etc., a besoin de faire un bilan complet pour savoir si sa thérapie est correcte. Et je téléphonais au mec en lui disant, bon, tu vires tout, s'il te plaît, parce que je commence à en avoir marre de lui donner des médicaments sans arrêt.
Donc pour vous, ce sont les gens qui demandent et
ce
pas
sont
les médecins
les gens
qui poussent
demandent
à la consommation.
Non, parce que le médecin n'a aucun intérêt dans les laboratoires. En plus, le médecin, il est hyper surveillé par la Sécu, et dès qu'il dépasse un quota de médicaments, il a une amende. Mmh. Alors il n'a pas envie du tout de donner trop de médicaments. Ne croyez surtout pas ça.
Alors mercredi, docteur Delabeau, les secrets du régime soupe.
Ah oui, vraiment, le titre m'a fait marrer, c'est pour ça que j'en parle. Il n'y a pas de secret dans le régime soupe. Hein. Le simple fait de se gaver de pseudo-aliments liquides, qui d'ailleurs est responsable de carences extrêmement dangereuses, si on a l'imprudence de ne se nourrir que de ça pendant plusieurs jours. Mmh. Le pire, c'est qu'on va perdre en effet parfois beaucoup de kilos, alors tout le monde est très content, mais ça sera uniquement une perte de masse musculaire, en même temps qu'une rétention d'eau carabinée au niveau des tissus. Le Khéops, c'est un bel exemple de régime soupe, si tu veux. Mmh. C'est vraiment le régime soupe typique, le Khéops. C'est-à-dire qu'on avale que des trucs qui nourrissent pas, on se colle une rétention d'eau carabinée et on est dans un état épouvantable sur le plan de la santé. Conclusion, plus on perd du poids avec ce régime, plus c'est dangereux pour la santé et surtout, plus on va en reprendre ensuite. Alors ça me ferait bien rigoler si c'était pas dangereux. Parce que c'est dangereux, donc ça me fait pas rire. Conclusion, à l'intention des mangeurs de soupe, mangez chrono et arrêtez de faire des bêtises, s'il vous plaît.
Il y a des actrices à Hollywood maintenant qui mangent des petits pots pour bébé. Oui, c'est le régime petit pot pour bébé et ça fait maigrir.
Mais bien sûr, ça fait maigrir. Mais il faut voir dans quel état ils sont après. Hein.
Jeudi, oui.
Ce sont celles que tu retrouves dans le lit, dans leur plumard, et tout ce qu'il y a de plus morte par un cardiaque ou des conneries comme ça. Hein. Le nombre de nanas de 30, 40, 50 ans, 60 ans qui passent l'arme à gauche, on se dit « Ah mais qu'est-ce qui est arrivé ?» Quand tu vois dans quel état elle était avant, bah, tu comprends. C'est dangereux de faire des conneries avec l'alimentation.
Jeudi, un aliment qui peut vous faire mincir vite.
À entendre le journaliste relayé et cautionné par une confrère, à mon avis, elle doit être en manque de clientèle pour valider une telle bêtise, le radis noir est la panacée universelle pour maigrir. Bon, à vrai dire, je préfère de loin manger du radis gris, dont le goût est beaucoup plus agréable, car moins pimenté, ou du radis jaune, dont mon beau-père, médecin de campagne, raffolait, tout comme moi pour son goût et pas pour de prétendues vertus thérapeutiques. Conclusion, faites-vous plaisir en mangeant du radis gris, du radis noir, du radis jaune, ou les trois si vous voulez, mais uniquement sur le plaisir, sans prêter attention aux fariboles que vous avez pu lire sur ses racines. Sans compter que le radis noir, étant donné sa composition, est potentiellement un ami des hémorroïdes. Alors, on oublie. Tu sais ce que c'est qu'une hémorroïde?
Non, ça m'a fait peur, docteur Delabeau.
C'est quand tu as le trou de balle enflé et que ça gratouille et que ça fait mal parce que t'as bouffé des trucs trop pimentés. Voilà, t'as pas la peine de te prendre la tête, t'as voulu la réponse à la question, tu l'as.
Il y a des fois, je regrette d'être en direct. Parce que sinon, ça, vous voyez, là, on aurait coupé au montage.
Je sais, mais moi, j'adore être en direct parce qu'on peut pas me couper au montage. C'est justement pour
alors,
ça que j'adore le direct.
Alors, on enchaîne, docteur Delabeau, avec vendredi, une maladie qui explose à cause du froid.
Bon, rassurez-vous, c'est une infection qui a sévi cette année uniquement en Angleterre et qu'on voit très rarement en France. Pourquoi en Angleterre plus qu'en France? Pas du tout à cause des mœurs ou des façons de faire de vivre des Anglais, mais parce que le temps y est radicalement, se prête énormément à les infections à streptocoque. Il faut, si vous voulez, pour qu'un microbe, ça vous allez tout comprendre.
Non, ce qu'on n'a pas compris, c'est d'abord qu'est-ce que c'était cette maladie qui explose, parce que vous ne l'avez pas dit.
Ah ben c'est tout simplement la scarlatine.
Ah, la scarlatine. Ouais. Il y a une épidémie de scarlatine en Angleterre.
Il y a eu de nombreux cas de scarlatine en Angleterre parce que, alors je vais t'expliquer pourquoi, c'est que le streptocoque A, c'est le microbe de la scarlatine, agit dans des conditions idéales pour lui de température et d'humidité. Quand il fait froid et qu'il fait humide, les deux ensemble et avec une différence, une température bien précise, paf, le streptocoque se multiplie et c'est pas très contagieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais parce que tu peux tripoter quelqu'un qui a une scarlatine à partir du moment où les boutons sont sortis, il est plus contagieux.
Mais c'est quoi la différence entre la scarlatine et la rougeole?
Ah ben ça n'a rien à voir.
Ah, ça n'a rien à voir.
C'est un virus, la scarlatine, c'est un microbe.
D'accord.
Ça vaut mieux d'attraper la scarlatine.
Manger de la mortora.
Mais c'est une maladie qui tuait énormément au siècle dernier, qui ne tue plus parce qu'on a le médicament contre le streptocoque. Mais j'ai vu une fois un gamin dans ma clientèle qui a fait une scarlatine, les parents ont tardé à m'appeler parce qu'il était plein de petits points rouges et se plaignait de rien. Et puis d'un seul coup, ça a explosé et il est monté à 42 fièvres. Il y est resté accroché pendant au moins 8 jours ou 10 jours, je crois.
Ça se guérit pas tout seul, hein, c'est ça?
Ah non, ça se guérit pas tout seul, la scarlatine. Il faut mettre des antibiotiques costauds. Il a eu droit même aux piqûres dans les fesses, le pauvre gamin. C'était d'ailleurs marrant parce que c'est la bonne sœur de la paroisse d'à côté qui lui faisait ses picouses et on se revoyait, bonne sœur et moi, de temps en temps, on se connaissait bien. Elle m'avait foutu des coups de pied aux fesses quand j'étais gamin parce que je faisais l'andouille. Et un jour, on s'est pointé, son père travaillait dans les trains et on s'était ramené, la bonne sœur et moi, avec chacun une gare, la même.
Quand vous racontez des histoires, j'ai l'impression de voir un film avec Louis de Funès et j'ai l'impression qu'on est en 1940, docteur Delabou.
Bah, je suis né en 42, hein,
c'est
pas
très
longtemps.
Ça, parce que la bonne sœur qui faisait des piqûres, je vais pas dire, docteur Delabou, mais...
Ah, oui, c'était à mon époque.
Il y a que sur France 3 qu'on voit ça, dans les téléfilms.
Ah oui, mais je suis un téléfilm à moi tout seul, Philippe. Une série de haut de gamme.
Bon, allez, on termine samedi avec trois aliments nocifs.
Samir qui, bon, il en peut plus, là.
Allez, samedi, trois aliments nocifs pour le foie.
Carrément, là, il va, attends, non, ne tape pas sur ton clavier, petit, tu vas l'abîmer. Voilà.
Docteur Delabou, trois aliments nocifs pour le foie.
Non, mais attends, j'ai pas fini pour la scarlatine, hein. Au cours de ma carrière de médecin de famille, j'en ai vu quelques cas qui pouvaient être mortels avant l'apparition des antibiotiques, mais qui se soignent maintenant très facilement. Il s'agit de la complication au niveau de la peau et des muqueuses d'une angine à streptocoque. Ça démarre toujours par une angine, sous forme de petits points rouges sur la peau disséminés, suivis dans les corps importants d'une desquamation impressionnante, donnant l'impression que le malade change de peau comme un serpent. C'est affreux, t'as des bouts de peau qui foutent le camp de partout, ça berque. Dieu merci, cette maladie se guérit sans laisser aucune séquelle, si on prend soin de la traiter correctement, bien évidemment.
Bien, et on termine avec les trois aliments nocifs pour le foie, docteur Delabou.
Ah, vous savez, il la demande, cette question-là, il veut le samedi des trois nocifs, parce que j'ai écrit une bêtise dedans, alors bien entendu, il l'attend de la savourer. En effet, mon sérieux bien connu l'ayant emporté sur l'envie de commenter les cinq trucs pour avoir des fesses fermes, je vous cite donc les trois aliments nocifs pour le foie. Ah bah oui, c'est bien, désolé, mais t'auras pas les cinq trucs pour avoir des fesses fermes, désolé.
Alors, donc c'est...
La vitamine A, le fer et l'alcool. Première remarque, la vitamine A est dangereuse que si on en a beaucoup trop stocké, ce qui est rarissime. Deuxième remarque, il est aussi dangereux de ne pas avoir assez de fer dans l'organisme, d'en avoir trop. Troisième remarque, l'alcool est nocif pour tous les organes et pas seulement pour le foie. Conclusion, c'est vraiment un article pour ouvrir les portes ouvertes.
Alors, Saïda nous appelle de Toulouse, et c'est pour ça que je voulais vous presser, parce que Saïda a une question à vous poser, et c'est urgent. Saïda, bienvenue.
Pourquoi me presse-t-il?
Bonjour à vous deux et à votre équipe. Vous m'entendez?
Ah oui, tout à fait, Saïda, tout à fait, on vous entend.
Je vous apprécie beaucoup, et puis vous avez un humour qui fait dégager vraiment le pessimisme.
Ah, ça, c'est très gentil. Là, Philippe me regarde avec l'air de dire, il va encore aggraver son cas.
Non, je vous apprécie tous les deux, vraiment, que je vous souhaite que des bonnes choses, parce que à toute votre équipe, heureusement qu'elle existe, la Beurre FM. Hein,
ah, c'est gentil, ça. Ça, c'est très gentil de nous dire ça.
Ouais, Dieu merci pour vous. Dites-moi, je vous appelle parce que moi j'ai ma mère qui a 80 ans, qui a le problème, on l'a découvert la semaine dernière, le fameux hélicobactère.
Oui, pylori. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est un microbe qui se situe dans l'estomac et qui est générateur souvent de douleurs et d'ulcères d'estomac surtout. Bon. Pas forcément.
Alors le souci, on lui a donné donc le traitement de 4 comprimés par jour, le Filera, et ma mère, elle a la peau lui gratte partout, elle a des brûlures, mais ça brûle partout, son corps brûle partout, avant d'avoir su qu'elle avait ce germe. Alors je voulais savoir, est-ce que ça va guérir?
Bah oui, mais les gratouilles partout, c'est parce qu'elle a un terrain allergique, hein. C'est les démangeaisons, ça n'a rien à voir. Ça peut être. Elle se grattait avant qu'on lui donne le traitement ou depuis qu'elle l'a?
Elle a des brûlures partout et ça lui gratte partout la tête, ça la démange. Elle est mal en point, vous ne pouvez pas imaginer. En plus, avec l'âge, elle se sent très mal, elle a peur de mourir.
Mais Saïda, ce que vous disait le docteur de la bouche, c'est est-ce qu'elle s'est grattée après le traitement ou elle se grattait avant?
Avant.
Déjà,
avant,
elle
avait des brûlures partout. Elle avait des brûlures à l'estomac et maintenant, bien avant, elle avait des brûlures d'estomac, mais aussi le corps brûlé. Vous savez, c'est quelque chose qui gratte les pieds.
Oui.
Bon, elle est diabétique, certes, type 2 non-insuline indépendant, mais moi, je m'inquiète par le fait que son corps démange partout.
Oui, alors la démangeaison partout, ça, c'est... Alors, soit c'est parce que, malheureusement, l'hélicobactère peut avoir, dans son cas précis, parce que c'est pas à chaque fois, peut avoir libéré des toxines qui la font se gratter partout. Alors, il y a un médicament qui est très, très bien pour ça, c'est le Xizal. Il faudrait demander à votre médecin s'il veut bien lui en donner, parce que ça va la soulager immédiatement. Xizal.
Comment?
XYZALL. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Xizal. X.
Xizal. Eh bien, écoutez, moi, avant, X, avec un X, hein, d'accord.
X.
Ce sont des X, hein, X
oui.
Ensuite.
Et Y après.
Alors.
Y, d'accord.
YZALL.
D'accord.
Voilà.
Bon,
c'est un excellent médicament contre les démangeaisons, contre toutes les manifestations. Mais ce qu'il faut, c'est alors parce que son antibiotique peut aggraver les choses. Bon, si elle se grattait avant, c'est presque une bonne nouvelle parce que elle supporte la, c'est pas l'antibiotique qui est en cause. Mais il faut qu'elle le prenne bien. Et puis ce qu'il faudrait aussi après ou pendant, c'est commencer à la soulager en lui donnant un inhibiteur de la pompe à protons comme l'inipompe par exemple. Évitez surtout, je suis désolé, mais évitez les génériques. Parce que les génériques, je les ai essayés, parce que j'ai eu un RGO, moi aussi, un reflux gastro-œsophagien. Je suis sous inipompe et les génériques sont en général pas trop efficaces ou même mal tolérés. Mais ça se guérit très bien tout ça, hein, vous inquiétez pas. Mais il faudrait peut-être quand même qu'elle lise un peu le bouquin ou que vous lui lisiez le bouquin sur le diabète, parce que ça se soigne très bien, un diabète non insulino-dépendant.
Bon, Saïda, voilà, vous avez du travail pour
ouais,
maman.
Il y a du boulot là. Puis j'aimerais bien que vous nous rappeliez pour nous dire si vous vous êtes occupé de maman à ce sujet-là, parce que faut pas la laisser avec son diabète comme ça.
Bon, on vous fait un gros bisou, Saïda. On prendra d'autres appels dans un instant, et vous allez enfin, docteur Delabou, si vous voulez bien nous expliquer ce que c'est que le morphotype Khéops.
Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, le docteur Delabo a mis au point un certain nombre de morphotypes. Docteur Delabo, on rappelle à tous ceux qui nous écoutent à quoi servent les morphotypes.
Les morphotypes, en fait, il y a deux morphotypes. Dans le prochain bouquin que vous allez lire et dont Philippe vous a parlé tout à l'heure, Bah, t'as fini de faire la gueule.
Non, je veux savoir.
Je peux faire ma pub, non?
Faites votre promo,
droit, non?
Qu'est-ce que vous faites, docteur Delabo, là?
Là, je suis en train de déplucher ma bouteille pour me mettre de l'eau dans mon café parce que le café, c'est trop fort pour moi. J'ai une petite nature.
D'accord.
Donc, je prends du café allongé. Sinon, après, j'ai le cœur qui tape.
Ah, ouais, c'est ça.
Voilà.
Bon. Alors, donc, le morphotype.
76 ans bientôt. Hein.
Ah oui, des noms.
Oui, dans 3 semaines. Hein. Je vous dis ça comme ça, les enfants, mais c'est dans 3 semaines. Le 15 février. Ok. Non mais notez bien le 15 février, c'est l'anniversaire du doc.
On fera passer le docton.
Le docton.
Oui.
On fera un docton.
Un docton. Docteur Delabo, expliquez-nous les morphotypes, s'il vous plaît.
Oui, j'aime bien de faire Marine un peu. Il est là, il trépigne. C'est dommage que vous le voyez pas parce que j'adore, il est là, il m'énerve. Il m'énerve. Mon pauvre Philippe, je t'adore. T'es ma victime préférée. Mais tu sais bien que je taquine que les gens que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous taquine.
Non, vous avez fait un morphotype. Vous avez dessiné votre morphotype avec une télécommande.
J'ai dessiné 2 morphotypes avec une télécommande. Voilà mon outil dont je dispose. À Beurre FM, un paplard qui est un petit peu usé. D'ailleurs, derrière, il y a déjà des trucs décrits.
Non, parce que moi, j'ai fait du recyclage, docteur Delabo.
Déjà essayé de me recycler 15 fois, mais ça marche pas.
Personne n'en a voulu.
Alors,
oui.
Le morphotype. Il y a 2 morphotypes. Un morphotype que j'ai défini pour vous tous et vous toutes pour que vous cessiez de vous imaginer que vous êtes aussi moche que votre dessin a l'air de le montrer quand on fait un morphotype K. calculé et un morphotype mesuré. Le morphotype mesuré et le morphotype calculé, ce sont des morphotypes mathématiques.
Mais c'est quoi un morphotype?
C'est la silhouette, c'est votre silhouette dessinée sur un papier. C'est comment je suis en réalité. Alors, la réalité, c'est le morphotype esthétique, c'est-à-dire que c'est tel que vous vous voyez, et vous le verrez dans le bouquin qui paraîtra le 15 mars. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin en partie, parce que j'en ai marre qu'on me dise « Ah mais docteur, je suis pas laid comme ça, je suis pas moche comme ça. » Je vais vous montrer les Khéops. Si vous regardez la silhouette Khéops, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais si vous regardez le morphotype esthétique, vous apercevrez que vous êtes resté très mignonne quand même. Donc c'est pas le souci.
Alors, Khéops, c'est surtout un morphotype de femme. C'est rare qu'il y ait des hommes qui soient Khéops.
Alors, c'est très rare de voir des hommes Khéops. Les hommes peuvent être éventuellement Maya comme les femmes, mais ils vont être plutôt à l'inverse. S'ils sont baraqués, costauds et beaux comme moi, ils vont être Schwarzy, c'est-à-dire des épaules larges, une taille 20, c'est des petites fesses de lapin. Quoique je n'ai pas des petites fesses, hein, faut pas dire.
Mais comme vous êtes assis, on gardera le mystère.
Ah non, tu ne te rendras pas que je me mette à poil et que je monte les fesses, non mais tu rigoles. Et,
ah, ça peut faire du buzz.
Ça peut faire du buzz, mais ça peut surtout faire des bleus sur moi avec ma femme.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que là, je la connais, la Guilou. Là. Si jamais elle sait que j'ai montré mes fesses sur ma femme, je suis interdit de séjour ici.
À la radio, c'est pas très grave, mais si c'est filmé,
oui, mais là, c'est filmé en ce moment. Alors, je te raconte pas. Surtout que l'autre jour, on m'avait pris avec des chaussettes. Elle a apprécié. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais en petite tenue, des chaussettes?
Bon, alors, docteur Delabo, donc, le morphotype Khéops, pour
vous
celle qui nous écoute.
Sur l'émission il y a 3 semaines ou 4 semaines, je crois, sur YouTube. Hein. Vous pourrez rigoler. Ils sont bien marrés tous.
Alors, donc, le Khéops, c'est quoi?
T'as du mal ce matin, hein. C'est vachement dur de travailler avec moi.
Ah, je sais.
C'est épuisant, hein. Ah, tu trouves pas? Non, mais je demande à Samy.
Non, ça va, c'est plaisant.
Ah, merci. Voilà, tu vois, la jeune classe m'apprécie. Il y a que les vieux schnocks qui m'aiment pas.
C'est-à-dire que dès qu'il a du public, c'est fini. Alors, c'est ce que je vous disais. Allez, docteur Delabo, les Khéops. Donc, les Khéops.
Alors, le Khéops, c'est une silhouette féminine et essentiellement parisienne. On voit très peu de Khéops en province. En province, et c'est pour ça que j'ai dessiné deux morphotypes, c'est qu'il y a le morphotype Khéops des parisiennes et le morphotype Maya des provinciales. Les Mayas, c'est plus on descend, plus il y en a. Les Khéops, c'est des seins comme des petits pois, une taille normale ou un peu épaissie, et des fesses qui peuvent être parfaitement très très larges, qui sont surtout en largeur, mais pas en épaisseur. Les fesses rondes, c'est l'apanage des femmes qui mangent du sucre, ou mieux encore, des sportifs qui ont des fesses musclées. La fesse ronde peut ne pas être musclée. La fesse ronde tombe en goutte d'huile en vieillissant. Donc attention, mesdames et demoiselles, allez pas bouffer du sucre tout le temps parce que vous risqueriez de le regretter. Ça, c'est une raison. Alors voilà les modes des deux morphotypes. Voilà, je suis bien.
Alors, regardez bien,
morphotype qui est à l'intérieur, le rectangle, c'est la normalité de votre corps. Ce sont les mensurations, c'est ce qu'on appelle le morphotype calculé. Vous avez une certaine hauteur, vous avez une certaine largeur de poignet. Je prends la largeur du poignet, je prends la hauteur et grâce à un savant calcul, je dessine exactement votre morphotype correspond à la valeur du rectangle.
D'accord. Donc un Khéops, ça peut être quelqu'un qui a une culotte de cheval, par exemple.
Il y a toujours des culottes de cheval dans le Khéops.
D'accord.
Y a pas de Khéops sans
donc ça veut dire qu'on est, plus on descend, plus on est large.
Voilà. Dans les deux cas, que ça soit le Maya ou le Khéops, plus on descend, plus on est large. Mais le Maya a un avantage sur le Khéops, c'est qu'il mange mieux que le Khéops. Simplement, il mange trop. Mais il mange mieux. Le Khéops se nourrit mal, très très mal. Le Khéops déjeune très peu ou pas du tout. Alors il se paie un petit truc de flocon d'avoine le matin, ce qui lui file de la taille et des fesses. Je ne cite personne, mais suivez mon regard. Et le Maya, lui, mange le matin de façon assez abondante, mais malheureusement, il mange les mêmes trucs que le Khéops, simplement il en mange plus et il en rajoute. Et puis il ajoute quelquefois des trucs costauds comme des œufs par exemple, parce que ça lui fait plaisir, ou du fromage. Mais ça ne suffira pas et il va se gaver au fur et à mesure de la journée, si bien que plus la journée va s'allonger, plus il va manger et plus il va prendre du milieu et du bas.
Donc dans le Khéops, en fait, on est plutôt étroit du haut.
On est étroit du haut. Voilà. Le Khéops n'a pas assez de poitrine. Ouais. Je ne parle pas des seins, ça n'a rien à voir.
De poitrine. Ouais.
Parce que attention, c'est deux choses différentes.
On a le torse assez chétif, quoi.
On a le torse chétif.
D'accord.
On a la taille normale et on a malheureusement beaucoup trop de fesses, beaucoup trop de hanches et beaucoup trop de cuisses. Mais ça n'est pas des muscles, malheureusement. J'ai vu, si vous voulez un exemple, vous regardez la nana qui est sur Antenne 2, sur la 2, le soir, qui fait la météo, elle est gentille, elle est adorable, elle est très bonne, elle est très bonne.
Elle est habillée pour l'hiver,
Elle a une culotte de cheval, mais alors carabinée. Alors, mais c'est le genre typique de nana parisienne. Elle a une poitrine qui est pas très forte. Elle a une taille normale et elle a, le drame, si vous voulez, mes chéris, c'est que rien ne m'échappe et que je vois absolument tout. Même habillé, je sais exactement
donc,
comment vous
ce
mangez.
Ce sont les gens qui mangent quoi, donc finalement, qui ont...
Bah, ils se gavent plutôt de légumes. Ils mangent des aliments qui nourrissent pas parce qu'ils sont persuadés que s'ils mangent des aliments qui nourrissent pas, ils vont mincir. Non, ils maigrissent. Ils maigrissent et ils maigrissent de là où il faut pas.
C'est pour ça qu'ils sont plutôt maigres du haut.
Ils sont maigres du haut parce qu'ils n'ont pas de provision de protéines. Ils ont les fesses plus plates et moins rondes que les autres parce qu'ils n'ont pas de protéines. Les protéines, ça va dans la poitrine et dans les fesses, dans les muscles fessiers. Mmh. Et ça va dans tous les muscles, les protéines. Alors que les légumes, ça va nulle part et ça va malheureusement laisser énormément de flotte. Ça n'a pas nourri et toute la flotte que ça a laissée, ça va se mettre dans le bas du corps, surtout parce qu'on mange en général ces gens-là. Alors la soupe du soir, c'est le désespoir. Hein, je vous signale, si vous bouffez des soupes le soir. La soupe et le yaourt, vous êtes certaine de faire un joli kéops, les filles. Hein. Alors, vous arrêtez. Hmm. Ça, c'est une des principales raisons des kéops.
Donc, finalement, alors, vous avez beaucoup d'auditrices, beaucoup de femmes qui souhaitent maigrir de cette partie-là, docteur Delapau.
Ah oui, mais il faut qu'elles commencent par changer complètement leur alimentation. C'est leur alimentation qui fait ça. Je vais vous dire un truc. Et ça, c'est sérieux, les filles. Le châssis, c'est papa-maman. C'est-à-dire, la façon dont votre structure osseuse est faite, c'est papa et maman qui vous l'ont faite. Mais la carrosserie, c'est vous et c'est personne d'autre. Et il n'y a pas de génétique là-dedans. Allez pas croire que parce que grand-mère a été forte et que je suis forte, c'est parce que c'est... Alors, c'est familial.
Non, c'est pas vrai, parce que la culotte de cheval, c'est souvent familial.
Mais c'est familial. Alors, c'est familial, mais pas génétique, parce que tout le monde mange de façon débile. Parce que mamie a appris à maman à manger comme ça, qu'il l'a appris à sa fille, qu'il va l'apprendre à sa petite fille, etc., etc., etc. J'ai vu ça, ça fait 32 ans que je fais cette médecine-là, avec énormément de plaisir, mais je me suis rendu compte très rapidement dans les premières années, avant même de mettre les morphotypes au point, je me suis rendu compte que les gens avaient des caractéristiques physiques qui correspondaient très exactement à leur façon de se nourrir. Alors ne vous réfugiez pas derrière la génétique, et ne vous en plaignez pas que je vous dise ça, parce que ça prouve une chose, c'est qu'on peut corriger les choses. Donc vous n'êtes pas si malheureuse que ça, il vaut mieux que ça puisse se corriger et que je vous fasse une prise de conscience un peu douloureuse au départ, que de vous dire avec beaucoup de gentillesse, ah bah, je suis désolé ma chérie, mais je peux rien pour vous, grosse vous êtes, grosse vous resterez. Ça serait pas aimable. Et ça n'est pas vrai. On peut très bien avoir un corps exactement parfait, vous n'avez qu'à me regarder, il n'y a pas de problème.
Alors, il y a souvent pas mal de cellulite également, docteur Delapau, donc pour celles qui veulent maigrir des cuisses, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez?
On enlève tous les aliments qui donnent des cuisses, c'est-à-dire qu'on va diminuer considérablement les légumes, on va arrêter de se gaver de crudités et de salades, on va cesser de croire que quand on mange de la salade, on mincit, c'est pas vrai, on maigrit, mais on mincit pas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une stagnation, avec une rétention d'eau carabinée. Il y a des aliments qui font de la rétention d'eau. Quand les gens ont une hypertension, il faut faire très attention. Eh bien, c'est un peu la même chose. On utilise le même protocole que pour les gens qui ont des cellulites par erreur et par mauvaise alimentation. On enlève les fromages durs et les fromages bleus parce qu'il y a beaucoup de sel dedans. Alors, on a enlevé, bien sûr, tous les laitages qui contiennent du lactose. Donc, on a droit au lait, on a droit à la crème, on a droit au beurre, mais le reste, banette. Et on donne ça à son pire ennemi avec son plus beau sourire.
C'est banette et pas danette, hein.
Non, tout le monde se lève pour banette.
C'est bon, la danette.
Oui, c'est bon, mais c'est pas bon pour les cuisses, hein. C'est ça le problème.
Bon, donc déjà, on enlève les légumes, enfin, surtout la salade qui donne, et la soupe, parce que la soupe, c'est bardé de sels minéraux, donc docteur Delapau.
Oui, exactement. La soupe est bardée de sels minéraux qui va provoquer une rétention d'eau assez importante. D'ailleurs, très souvent, quand les gens sont kéops, il faut leur donner non pas un diurétique, mais un drainant. Je déteste les
diurétiques. C'est quoi la différence?
Pas le drainant, c'est tout simplement de la phytothérapie. Ce sont des plantes qui vont aider le fonctionnement d'élimination des reins, mais qui vont pas obliger le rein à sécréter sans arrêt. Si vous voulez, ça va pas obliger le
corps.
Mais
ça fait faire pipi quand même, le drainant.
Non. Ça fait éliminer, mais ça fait pas faire pipi plus souvent. Prends du Lasilix, tu vas comprendre ta douleur, tu vas pisser tous les quarts d'heure au début.
Mais est-ce que justement...
Alors que là, on...
Non mais justement, tous ces aides qui sont les drainants ou les diurétiques, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que ça aide vraiment ou finalement c'est juste psychologique?
Ça ne peut aider que si en même temps on mange des aliments qui permettent d'éliminer les excès de sels minéraux dans le corps. Bien évidemment. Tout comme, si vous voulez, c'est comme la gymnastique ou c'est comme les... On vous fait faire de l'exercice et on vous met des culottes spéciales pour perdre... Ça me fait marrer. Ça sert à rien si vous ne mangez pas correctement, mes chérie, même si vous perdez 1 demi-litre de flotte en faisant des efforts épouvantables et en risquant d'ailleurs d'esquinter votre cœur.
Le fameux panty.
Oui, le fameux panty à la mort que je crie. Eh bien, malheureusement, ça va revenir immédiatement. C'est exactement, si vous voulez, comme si vous avez une écope pour votre bateau, tant que vous avez qui prend l'eau, tant que vous n'avez pas mis boucher le trou qui prend la flotte, ben ça va continuer. Là, tant que vous n'aurez pas pris les aliments, enlevé les aliments qui donnent de l'eau et pris des aliments qui permettent d'éliminer l'eau. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Plus vous serez carnivore, moins vous aurez d'eau dans le corps. C'est le principe des bodybuilders et autres types qui font de la gonflette. Bon, ça c'est pas très malin non plus, c'est pas une manière intelligente de se muscler. Il vaut mieux faire de l'exercice et il vaut mieux s'entraîner avec des gens compétents que d'aller faire de la gonflette, ça sert pas à grand chose. Mais n'empêche que ces gens-là font des régimes secs, c'est ce qu'ils appellent le régime sec.
Enfin, ils alternent la sèche avec des périodes où ils mangent, hein.
C'est, oui, maintenant.
Il y a une alternance des deux, hein, docteur de la
toujours, hein, oui,
si, attends. Non, il y a une alternance. Il y a période sèche et période grasse, hein.
Oui, mais la période grasse, c'est nouveau. Ça vient de sortir parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pétaient tous leurs muscles. Mais c'est pas longtemps, hein. T'oublies que j'ai quand même un certain paquet d'années plus que vous et que les conneries qui ont été faites en médecine, dans ce genre de trucs, je les connais par cœur. C'est pour ça que je suis en train d'écrire un bouquin. Je te signale que j'ai un de mes élèves qui a fait un mémoire pour l'Institut de Physiologie du sport INSERM de Véronique Billat, que je salue, et qu'il a eu une note extra, parce qu'il a prouvé qu'avec la chrononutrition, on débarrassait les gens de leurs excès de gras et d'eau, et qu'en même temps, on les musclait un plus.
Bon, on cherche un volontaire pour mordre le docteur de labo, pour savoir s'il crie vraiment, comme il nous l'a dit, donc je ne sais pas si quelqu'un veut s'y risquer, et dans un instant, le docteur de labo répondra à vos questions au standard de Beurre FM, au 01 53 48 3000.
Non, mais je veux parler. En fait, quand on me mord, je crie pas, je frappe.
Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et vous posez vos questions au docteur Alain Delabo, 01 53 48 3000. Je rappelle que vous retrouvez le meilleur des interventions du docteur Delabo sur la chaîne YouTube de Beurre FM, que vous pouvez vous y abonner et regarder l'émission quand vous
j'ai
voulez.
J'ai un maya derrière moi, hein, parce que ça existe chez les hommes aussi.
Un maya?
Oui, c'est un maya.
C'est un maya.
Alors le matin, un flocon d'avoine avec du lait et puis sans doute des yaourts et des conneries comme ça. Et tu manges quoi avec? Tu prends quoi avec? Un petit jus d'orange?
Des fruits.
Oui, d'accord, c'est encore pire. Donc ça, c'est le maya typique, parce que comme il a mangé le matin des aliments qui nourrissent mal, il va avoir faim le midi, et il m'a dit tout à l'heure, le pauvre chéri, docteur, j'ai trop de ventre, comment je fais perdre mon ventre? Mais il n'y a pas que le ventre, il a aussi ramassé des fesses. Et il est donc maya, ce qui pour un homme est le top du top.
Mais vous le laissez tranquille, il était tout à fait heureux avant d'arriver de vous voir.
Il m'a posé une question, faut jamais me poser des questions, parce que ça s'appelle ouvrir la boîte de Pandore, tu vois, Pandore c'est moi.
Alors Tarek vous appelle de Noisy-le-Grand, ouais. Docteur de labo, 01 53 48.
Oui, bonjour.
Merci, bonjour Tarek, merci de votre patience.
Bonjour Tarek.
Bonjour docteur, en fait je vous appelle sur un autre sujet en fait.
Oui, allez-y.
Par rapport à mon père.
Oui.
En fait, j'ai mon père qui est décédé il y a un mois de ça, il se fait opérer à Raymondeur.
Oui.
Le problème, il est parti pour une intervention d'artère au niveau des jambes, il s'est fait opérer, c'est très bien passé.
Ouais.
Et après, ils ont fait scanner tout ça, ils ont dit, ouais, vous avez l'aorte qui est délatée.
Ouais.
Et ils ont dit, il faut faire une opération. Ils ont donné rendez-vous pour le 3 novembre.
Ouais.
Ils m'ont appelé avant, ils m'ont dit, ok, l'opération rapportée jusqu'au 19.
Ouais.
On est parti le 19, c'est un dimanche, on est parti le 19. On arrive, on a donné la chambre, nanana, et demain matin, il se fait opérer aux premières heures.
Oui.
Déjà avant dimanche, et ils ont dit, ouais, il faut faire la radio du poumon. Il a fait la radio le dimanche soir vers 18h, 19h. Et le lendemain, lundi matin, il se fait opérer. Moi, vers 14h, je pars à l'hôpital. Ils ont dit, ouais, pour l'instant, il est encore au bloc. 15h, ils ont dit qu'on sait pas où il est pour l'instant. Jusqu'à 18h, ils ont dit, il est en réanimation 11e étage. Je vais monter 11e étage. Et il s'est pas réveillé. Et je commence à poser des questions. Ils m'ont dit que c'est mystère. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là. On ne sait pas pour l'instant. C'est mystère. Je dis mystère. Il n'y a pas de mystère vraiment dans la médecine. Bon, bref. Et Après, moi, ils l'ont rempli de l'eau, en fait. Et au moins 30 litres d'eau dans le corps. Et après...
Attendez, Tarek. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau? Expliquez-nous.
En fait, je sais pas comment on appelle ça, c'est de l'eau qui il injecte dans le corps, en fait. Je sais pas c'est quoi, en fait.
Ils lui ont injecté, mais à quel moment ils lui ont injecté de l'eau?
Juste le soir même, après l'opération, ils ont dit que deux heures après, ils m'ont dit que ouais, les organes, ils n'arrivent pas à démarrer. En plus, il est bon santé, il a rien du tout à part la horte, il a aucun maladie, ni sucre, ni rien du tout, il a vraiment rien, c'est un grand sportif. Le problème, après le lendemain, c'est pareil, à 8h du matin, je suis sur place, ils m'ont dit que c'est mystère, on ne sait pas. Vers 18h, ils ont dit qu'on descend encore au bloc pour regarder avec Dieu. On va l'ouvrir, on va ouvrir l'opération pour regarder. Ils l'ont ouvert, ils ont regardé, ils ont dit que pour l'instant, on ne sait pas. Le troisième jour, ils ont descendu au premier étage, de réanimation de premier étage. Ils ont commencé à regarder, à chercher c'est quoi. Ils ont dit, un médecin, il m'a dit qu'il a chopé un microbe au bloc d'opératoire. Je dis que, d'accord. Le quatrième jour, ils ont dit quoi? Apparemment, c'est le poumon. Pour moi, un grand problème, c'est le poumon. Le problème, c'est les poumons. Je dis que d'accord, il faut traiter le poumon. Ils ont dit ok, on va regarder ce qu'il y a. Pendant un mois, il est resté au coma artificiel un mois. Un mois exact, 30 jours. Je suis arrivé sur place, ils ont dit quoi? Tout va bien, non, il reste juste l'isodème à évacuer dans les poumons. On va le réveiller. Tout se passe très très bien. En fait, le soir même, le 25 décembre, vers minuit, il y a un médecin des gardes qui m'appelle, il me dit, ouais, il faut venir d'urgence pour voir votre père. Je lui dis, mais j'arrive, il n'y a pas de problème. J'arrive sur place, ils m'ont dit, ouais, votre papa, on l'a descendu au bloc pour une opération l'opération d'urgence, mais c'est quoi? Ils ont dit que pour l'instant, on va regarder, il y a un problème. Mais ce matin, quand je suis arrivé, tout va bien, il va se réveiller dans 2-3 jours. Et j'arrive sur place vers minuit, et ils m'ont dit, ouais, il faut rester à côté de votre papa, et il va partir, il est décédé. Il va décéder. J'ai resté de minuit jusqu'à 3 heures, à 3 heures du matin, il n'y avait personne avec moi. J'appelle les médecins, ils m'ont dit qu'on ne peut rien faire, on a tout fait, il ne va pas se réveiller, il faut rester à côté de lui. Il est décédé, tout ça. Par rapport à la horte, je sais pas. Le jour d'aujourd'hui, là, je suis parti à l'hôpital pour demander que personne veuille me recevoir. Et j'ai retiré le dossier. J'ai retiré le dossier, il est arrivé avant-hier le dossier. Et là, le médecin, le chirurgien, il n'arrête pas de m'appeler. J'ai trouvé, moi, je suis parti au pays pour l'enterrement. Et j'ai trouvé des appels de l'hôpital et les appels du chirurgien pour me recevoir aujourd'hui à 15h. Mais le jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire.
Mais votre père, il est sorti à un moment donné du coma après son opération ou jamais?
Non,
jamais. Il s'est jamais réveillé, hein, c'est ça?
Il s'est jamais réveillé. Un mois.
Et ils l'ont maintenu donc dans le coma pendant un mois, c'est ça?
Il a été opéré à Mondor.
Voilà, artificiel, ouais.
À Henri Mondor, c'est ça?
C'est Henri Mondor.
Ouais. Et mon dit qu'il n'a aucun problème. Ils m'ont dit juste les œdèmes. Le problème, c'est des œdèmes. Et je jure qu'il va. En fait, c'est les poumons. Il y a trop d'œdèmes dans les poumons. Après, à chaque fois, il me raconte des choses différentes.
En quoi est-ce que vous avez besoin de l'aide du docteur de labo? Qu'est-ce que le docteur peut vous apporter, Tarek?
Je veux savoir par rapport à la horte, est-ce que c'est dangereux? Je sais pas. En fait, j'écoute la radio,
Oui.
Vous avez bien fait en plus, Tarek.
Vous avez bien fait parce que. Si vous voulez.
Aujourd'hui, mon père, je vous dis, on est parti après. On est parti, on a rendez-vous tranquille. Il n'était pas malade. Il n'y a aucun malade, juste la horte qui est dilatée. Mais franchement, il n'y a aucun malade.
Oui, mais la horte dilatée, c'est extrêmement dangereux. Et en fait, Tarek, vous me rappelez l'histoire de mon père, qui était médecin, mais qui a eu exactement la même chose, qui a été opéré pour un anévrisme de la horte abdominale. Et c'est vraisemblablement ce qu'avait votre papa.
Il a opéré.
Oui, et il a été opéré. Bon, dans son cas, ça s'est bien passé. Il est décédé depuis d'autres choses. Mais ça peut très mal se passer si jamais il y a quelquefois ce qu'on appelle une fissuration de la horte, c'est-à-dire qu'elle se déchire. Et là, on peut strictement rien faire.
Mais après, sur l'œdème des poumons, tout ça,
alors,
est-ce que ça peut être une conséquence de l'opération ou ça n'a rien à voir, docteur Delabeau?
C'est très compliqué.
Ça n'a rien à voir. L'opération s'est très très bien passée, ce qu'ils m'ont dit. Juste, c'est les œdèmes qui l'ont rempli d'eau. C'est ça, les œdèmes, c'est de l'eau. Ils l'ont rempli beaucoup d'eau, ils n'arrivent pas à l'évacuer.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient mis 30 litres d'eau dedans. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il a malheureusement, il a fait un œdème par vraisemblablement par excès d'eau dans les tissus, et il a dû faire ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon, c'est-à-dire qu'il a son poumon a lâché, et dans ces cas-là, le poumon se remplit d'eau. C'est un problème. Il faut que vous voyez le chirurgien, il va vous expliquer, parce que moi je suis extérieur à ça, je n'ai pas, il faut tout le dossier pour comprendre, vous savez, c'est pas simple la médecine et la chirurgie non plus. Et là c'est un problème médico-chirurgical.
Mais qu'est-ce que Tarek pourrait poser comme question par exemple?
Qu'il attende d'abord que le chirurgien lui explique ce qu'il va lui dire, qu'il va lui expliquer. Chez Mondor, l'hôpital Henri Mondor, ce sont des gens tout à fait compétents, donc c'est une histoire, c'est vraiment dommage pour votre papa. Je suis désolé pour lui parce que c'est un des meilleurs services qui soit. On peut leur faire confiance. Ce sont pas des rigolos. Ce sont des gens très très sérieux. Moi, je me ferais opérer sans hésiter Henri Mondor. Bon, on a d'excellents chirurgiens à Rouen aussi. Mon père a pas eu besoin et il avait un des meilleurs chirurgiens de France d'ailleurs.
Alors, Tarek, vous avez rendez-vous cet après-midi, c'est ça?
Ouais,
mais il faut y aller, Tarek. Il faut y aller parce que sinon vous allez avoir des doutes tout le temps. Vous allez jamais savoir ce qui se passe. Quitte à nous rappeler après que le médecin chirurgien vous explique, quitte à nous expliquer ce qu'il y a dans le dossier. Et là, je pourrais plus facilement vous renseigner. Mais là, tout de suite, je suis dans le noir complet parce que je n'en sais pas plus que vous là tout de suite. Ce que vous me racontez me fait penser à la possibilité d'un œdème aigu du poumon. Il est possible qu'il vous dise ça d'ailleurs. Ouais. Ce que vous me faites penser, c'est une rétention d'eau aiguë.
Peut-être qu'ils n'ont pas vu ils m'ont dit que le poumon est très très malade. Mais je sais pas, apparemment, moi dans ma tête, ils n'ont pas vu la radio. Il a passé la radio le dimanche soir et l'opération c'est à 7h du matin, 7h30 du matin. À mon avis, le dossier n'était pas complet. Ils n'ont pas vu le poumon.
Oh, ça c'est pas sûr. Alors là, je peux vraiment pas vous dire ni oui ni non, parce que ça serait mentir, parce que j'ai aucune certitude. En principe, quand on demande une radio d'urgence, on la voit, la radio se passe et on a la radio dans la demi-heure qui suit. Quand c'est une radio demandée pour un bloc, et d'ailleurs c'est pas le chirurgien qui regarde la radio, c'est l'anesthésiste qui s'occupe de ça. Parce que c'est l'anesthésiste qui va contrôler pour tous les tuyaux. Le chirurgien, il fait son boulot, si vous voulez, il répare l'organe, mais l'anesthésiste, lui, il va veiller au bon fonctionnement de l'organe.
Tarek, oui.
Ok, je vais y aller, je vais voir.
Allez-y, et puis rappelez-nous, malheureusement, on n'est pas là la semaine prochaine, la semaine d'après, on pourra vous voir que tous les deux que dans 3 semaines, mais on sera à votre écoute, Philippe et moi, et on verra ça avec vous si vous voulez, Tarek.
Très bien, merci à vous en tout cas.
Je vous en prie.
Bon, c'est important que vous appeliez Tarek aujourd'hui, et effectivement suivez le conseil du docteur, allez-y, posez toutes les questions, parce que sinon vous allez rester à vous faire peut-être des films, à imaginer des choses. C'est peut-être bien de pouvoir y être et de poser
parce
toutes les...
Parce qu'il s'est réellement passé.
Voilà, pour poser des questions. Mais ils ont une obligation de dire la vérité.
Ils disent la vérité, ils mentent pas. Puis chez Henri Mondor, non, ils ont une réputation solide. C'est pas des...
C'est-à-dire que les...
Mais nul n'est à l'abri d'un problème au cours d'une intervention. Il faut bien savoir que vous avez des gens qui meurent pour une opération de l'appendicite. Et Dieu sait que c'est simple à faire. Eh bien, on peut mourir d'une opération de l'appendicite. J'ai vu ça dans ma clientèle quand j'étais jeune médecin, c'est épouvantable parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a pu...
C'est pour ça que les gens qui vont faire des opérations de chirurgie esthétique, c'est complètement stupide d'aller...
On peut mourir d'une opération
d'aller se faire refaire le nez ou n'importe quoi, et ça reste des opérations, moi.
Ce sont toujours des opérations, il y a toujours un danger quand on se fait opérer.
Oui.
Et particulièrement si on a un problème de fragilité particulière, ce qu'avait votre papa.
Mais le problème, docteur Delabeau, c'est que quand vous êtes de l'autre côté de la barrière,
mais c'est terrible.
C'est-à-dire que quand, vous n'avez pas forcément le langage, vous n'avez pas, vous voyez, il n'y a pas toujours la compréhension de ce qui se passe.
Et puis il faut savoir que un chirurgien peut être excellent et ne pas savoir expliquer, figure-toi Philippe, parce que malheureusement c'est souvent le cas. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le don d'expliquer, de commenter, de faire. Vous avez des gens extrêmement intelligents qui vont être incapables de vous dire exactement ce que vous voulez entendre parce qu'ils ne vont pas savoir comment vous le dire.
Oui. En tout cas, voilà. Tarek, vous nous tenez informés de ce rendez-vous que vous allez avoir à Henri Mondor. Et puis,
oui,
vous pourrez en parler avec...
Je vais rester préoccupé par ça.
Voilà, par le docteur Delabeau. Docteur Delabeau, donc on retrouve vos aventures sur la chaîne YouTube de Beurre FM.
Oui.
est-ce qu'on a le temps de prendre... Parce que,
on a le temps de prendre encore un petit... quelqu'un qui attend, non?
Non, parce que Jimmy D me regarde, mais est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps.
On n'a plus le temps.
Non,
on est fini, là.
On n'a plus le temps.
Oui, mais c'était important d'écouter Tarek, c'était important de conseiller et important de faire en sorte qu'il ne se sente pas tout seul. Parce que ce que j'ai ressenti le plus, c'est cette impression d'être tout seul à se débrouiller. Et ben, on est là pour vous aider.
Voilà. Et quand vous êtes face à une administration ou face à un hôpital, ben, parfois, vous êtes complètement largué, quoi. Faut dire que, voilà, vous n'avez pas toutes les informations et vous avez l'impression parfois qu'il s'est passé des choses et il vaut mieux éviter de se faire des films. C'est pour ça qu'il faut poser toutes les questions.
Exactement.
Docteur Delabo, merci d'avoir été avec nous. Demain, on retrouve l'imam Abdelali Mamoun dès 10h du matin pour l'islam au présent.
Là, tu feras une grosse visite pour moi.
J'embrasserai l'imam.
Tu lui feras toutes mes amitiés.
Toute proportion gardée.
Donc, oui, bien sûr.
C'est que je n'embrasse pas l'imam Abdelali Mamoun.
Ah, mais moi, je lui fais la bise à chaque fois que je le vois.
Oui, mais parce que vous.
Mais moi, je suis un petit peu spécial, c'est vrai.
Tout terrain.
Oui. Ça veut dire quoi,
si
ça,
si je peux me permettre.
Voilà, je crains, là.
Non. Ne craignez rien, docteur Delabo. Il y a prescription à votre âge.
Ah bon, non, mais Philippe, à mon âge, il n'y a pas prescription.
Maître Serran sera là également pour ses tout droits. Demain, entre 11h et midi, passez une très belle journée sur Beurre FM.